Vous écoutez Arte Radio.
Bon, je vais faire mon footing, je prends pas mes clés, à toutes.
Je cours au moins 3 fois par semaine au parc municipal à côté de chez moi. Depuis des années, j'en ai besoin. Ça fait partie de mon équilibre. Je me décrasse la tête du travail, de la maison. Et surtout, je n'ai encore rien trouvé de mieux pour arriver à résister aux avances de mon vieil amant toxique, le trouble anxieux généralisé.
Oh putain, c'est la montée. J'aime pas cette montée.
Je ne m'étais jamais posé beaucoup de questions là-dessus jusqu'à ce que récemment, un soir, je décide de sortir courir, comme ça, sur le champ, pour me calmer. Il était tard, le parc était fermé, j'avais peur de passer pour une folle dingo, toute seule dans la rue à cette heure-là, en legging aérodynamique. Mais je me suis aperçue qu'en fait, la nuit, eh ben, il y a plein de gens qui courent dans la ville, sur les trottoirs.
Tu te demandes ce qu'ils foutent là, quoi.
J'ai d'abord trouvé ça réconfortant, et puis, à force de croiser tous ces dératés en nage, crachant leurs poumons dans leur Marcel en lycra, l'air complètement shooté aux endorphines sous leur casque Bluetooth, j'ai commencé à nous trouver tous un peu flippants quand même.
On peut dire avoir une super journée au boulot.
Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on fuit?
Un petit sprint pour le cardio.
C'est quoi cette vie où on a besoin de s'avaler des kilomètres de bitume le soir pour tenir le coup? Comment on en est arrivé là? Le capitalisme post-industriel nous a transformés en hamsters. Camés à la dopamine et au gel énergétique. On va pas bien en fait. On est prêt à se flinguer les ménisques pour compenser le vide intersidéral de nos existences sédentaires de bons petits soldats du secteur tertiaire. D'où vient cette obsession masochiste de la performance, du cardio training et de la chousse de running à 200 €? Pourquoi on va pas plutôt se boire un coup en terrasse? Bref, c'est quoi ce délire général avec la course à pied? Qu'est-ce que ça dit de nous, individuellement et collectivement? Et en rentrant, je me suis dit qu'il fallait faire un épisode.
Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller plus loin?
Vivons heureux avant la fin du monde.
On est mal.
Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne, chaque mois, si on y arrive.
Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio.
Épisode 29. Pourquoi se fouler à courir? La première info qui m'a frappée, c'est une statistique de l'Observatoire français du running, qui date de 2021 et qui estime à environ 15 millions le nombre d'adeptes réguliers de la course à pied. 15 millions, j'ai calculé, ça veut dire qu'on serait environ un adulte sur 3 à s'infliger chaque semaine de notre plein gré ce pur effort physique qui n'a rien de ludique.
Mais moi, je suis intimement convaincue que l'humain n'est pas fait pour courir.
Monotone.
On transpire comme des bœufs, on souffre comme des porcs, on a des points de côté, enfin, c'est laborieux.
Quand il ne refile pas des fois carrément envie de vomir ses tartines.
Si l'humain était fait pour courir, eh ben on se serait pas fait chier à inventer la bagnole et tout le reste. Les animaux, ils galopent comme ils respirent. T'as jamais vu un guépard s'arrêter en pleine course parce qu'il a un point de côté, mec.
Et donc, Florence Forestier a raison. Il y a quand même un mystère là-dessous. Pour nous désentortiller tout ça, j'ai trouvé à l'université de Saint-Étienne un chercheur en physiologie de l'effort. Guillaume Millet, il s'y connaît en effort puisqu'il est lui-même champion d'ultra-trail. Et lui, il envisage la course à la lumière de l'évolution des espèces. Ce qui, vous allez voir, inverse complètement la perspective. Parce qu'en fait, courir, contrairement à ce que l'on peut ressentir quand on s'enquille des tours au parc, eh ben on est fait pour ça. Enfin, l'espèce humaine est faite pour courir. C'est même une faculté qui la distingue de tous les autres mammifères terrestres. Alors, pas courir vite, hein. Courir longtemps.
Et effectivement, l'être humain, autant c'est vraiment un piètre sprinteur, autant c'est un très bon coureur d'endurance. Les vitesses maximales de sprint, on a des pics à 40 km/h. Et encore, quand je dis « on », ce sont les meilleurs sprinteurs, Usain Bolt. Donc ça nous place dans les espèces animales au même niveau que l'éléphant ou le chameau. Donc évidemment, avec 40 km/h, on est bien loin des 110 km/h du guépard, des 90 km/h de l'antilope, de l'autruche, enfin, de toutes les espèces, même le chat va plus vite que nous. On est juste devant le cochon, en gros. Par contre, en endurance, là, on a vraiment des atouts. On gagne, surtout s'il fait chaud, on va gagner contre presque toutes les espèces animales. Il y a même une course qui a été organisée entre l'homme et le cheval en Angleterre. Et l'homme arrive à battre le cheval, y compris sur des distances qui ne sont pas très élevées.
Ça m'a un peu surexcité, j'avoue, cette idée qu'on puisse battre toutes les espèces à l'endurance. C'est assez contre-intuitif. Il paraît qu'on bat même le guépard.
Ah, le guépard, sans aucun problème. Certes, il va aller à 110 km/h alors que nous irons à 40 km/h. Par contre, ces 110 km/h, il va être capable de les tenir sur, c'est ce qu'on voit sur les documentaires télé, c'est quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. C'est-à-dire qu'il a, quand il chasse une antilope, il a une chance. Et s'il rate sa proie, il doit se reposer longtemps avant de retenter sa chance avec un autre animal. Pourquoi le guépard est plus rapide que nous? Parce qu'il a des fibres musculaires qui se raccourcissent beaucoup plus vite et qui lui permettent d'avoir des vitesses de contraction et donc des vitesses de course qui sont très élevées. Sauf que la contrepartie d'être capable de produire énormément de vitesse, énormément de puissance dans un temps très court, c'est que l'on se produit énormément d'énergie et donc on s'épuise très rapidement.
Alors que nous, Guillaume Millet me l'a expliqué, certes, on n'a pas ces fibres rapides dans les mollets, mais on a acquis, par sélection naturelle, au fil de millions d'années de survie à poil dans la savane hostile, tout un tas de caractéristiques génétiques qui ont, petit à petit, prédisposé notre organisme à enchaîner les kilomètres. Nos tendons d'Achille, par exemple, qui fonctionnent comme des élastiques. J'y avais jamais pensé, mais c'est un peu comme si on était monté sur ressort. Ou un ligament spécial qu'on a dans la nuque pour stabiliser notre boîte crânienne. Alors que les chimpanzés, eux, s'ils courent, eh ben, ils ont la tête qui se met à brinque-baller dans tous les sens. C'est pour ça qu'ils restent tranquilles à s'épouiller sous les arbres.
Les accélérations, c'est chaud quand même.
Mais ce qui nous a permis de plier définitivement le game sur de longues distances, c'est marrant, c'est une caractéristique dont on ne penserait pas forcément à se targuer à première vue.
Je pue par contre.
Par rapport à d'autres espèces animales, nous, on a cette capacité à transpirer, à évacuer encore mieux la chaleur de notre corps, dans le but évidemment de maintenir une température centrale, la température du cerveau, à une température raisonnable. Parce que quelle que soit l'espèce animale, quand on commence à passer au-dessus de 41 degrés, le cerveau, il n'aime pas beaucoup ça. À partir du moment où on atteint cette température, eh bien, on s'arrête. C'est un mécanisme de protection. Donc, on est surtout endurant en ambiance chaude. Quand on demande à quelqu'un dans la rue, citez-moi un animal très endurant, sans doute un des premiers animaux qui va être cité, ça va être les chiens de traîneau, les huskies. Effectivement, si on les met en Antarctique, ils sont très performants, ils peuvent faire plus de distance que nous par jour. Par contre, dans le désert, il faut un petit peu moins les malins. Un chien, il n'a pas cette capacité à suer. Donc les huskies, dès qu'il fait un tout petit peu chaud, ils sont vraiment dans le dur parce que la seule façon de se refroidir, c'est en haletant. Et nous, on a cette capacité à thermoréguler. Et cet avantage explique pourquoi on peut courir longtemps, y compris en ambiance chaude.
Si Guillaume Millet insiste autant sur notre aptitude à transpirer pour éviter la surchauffe, c'est que la sueur a joué un rôle absolument décisif dans notre évolution. Ça paraît un peu farfelu, mais d'une certaine manière, l'espèce humaine a pu devenir ce qu'elle est parce qu'elle transpire quand elle court. En tout cas, c'est l'hypothèse des paléo-anthropologues.
C'est pas moi du tout qui l'ai inventé, ce sont des scientifiques qui ont proposé ça pour la première fois, qui s'appelle Daniel Lieberman. C'est un paléoanthropologue de Harvard et son collègue Dennis Bramble. Ils ont appelé ça donc l'Endurance Running Hypothesis, qui dit que notre capacité à courir sur de longues distances a participé à l'évolution parce que ça nous a permis de chasser et d'accéder à plus de protéines animales. Et ces protéines nous ont permis de développer notre cerveau plus que d'autres espèces animales. Pour deux raisons. Donc, avant que l'on ait bien sûr développé des armes à feu et d'autres outils, d'ailleurs si on les a développés, c'est déjà qu'on avait un cerveau qui était développé. Pour chasser, on pouvait utiliser ce qu'on appelle la chasse au long cours. Persistence hunting en anglais, ou la chasse à l'épuisement, ou la chasse à continu, il y a différents noms. Donc l'idée, c'est de traquer des animaux. Les chasseurs choisissaient quand même les heures les plus chaudes de la journée. Et donc, bien sûr, comme on court à 40 km/h et une antilope à 90 km/h, on ne peut pas l'attraper en sprintant. Et donc, on poursuit l'antilope. Alors, ça paraît simple comme ça, mais en réalité, c'est quand même compliqué. Donc, il faut traquer, c'est-à-dire suivre les traces de l'antilope, puisque du coup, elle va s'éloigner, elle va s'arrêter. Quand on arrive de nouveau à proximité de l'antilope, elle va de nouveau s'éloigner, elle va fuir. Et ce faisant, elle va augmenter sa température centrale. Et comme on a dit que l'être humain avait une meilleure capacité à limiter l'augmentation de la température centrale, à un moment donné, la température centrale de l'antilope va augmenter et celle du chasseur va rester à un niveau raisonnable. Et du coup, quand elle va atteindre ce seuil critique de température centrale, malgré la peur du chasseur, elle ne pourra plus avancer. Et donc, le chasseur n'avait plus qu'à tuer l'animal. Et puis l'autre raison qui fait dire à Lieberman que notre capacité à courir longtemps a participé à notre évolution, c'est le fait qu'on a pu aussi se nourrir en étant des charognards. Le fait qu'on est devenu bipède, ça nous a permis de voir au loin dans la savane. Ça permet notamment de voir, justement, quand il y a des vautours qui sont sur une proie, de se dire, oui, moi je vais aussi aller sur cette carcasse pour me nourrir. Sauf que si on attend trop, il y a des chances que quand on arrive, la carcasse, elle soit justement terminée par les charognards. Il fallait se dépêcher, donc le fait de courir à cette carcasse aurait permis, d'après les paléoanthropologues, de nous développer, de développer notre cerveau, de pouvoir obtenir des protéines.
Ce petit détour par la paléoanthropologie a complètement changé mon regard sur mes joggings hebdomadaires. J'ai trouvé ça beaucoup moins absurde, soudain. En comprenant que courir, au fond, c'est inscrit au cœur de mon programme génétique. Ça relève d'une identité humaine enfouie en nous depuis la nuit des temps. Mais Guillaume Millet m'a dit qu'il ne fallait pas trop fantasmer non plus. Il y a 2-3 distinctions importantes à poser avant de se prendre pour une femme des âges farouches.
Nos ancêtres cueilleurs-chasseurs couraient déjà sur des dizaines de kilomètres par jour. En général, les chiffres qui sont avancés sont, donc les femmes seraient autour de 10-12 km par jour et les hommes plutôt autour de 15 à 17 km par jour. Mais la grosse différence avec la course à pied contemporaine, c'est qu'ils ne couraient que pour aller se nourrir. Et d'une façon générale, ils ne dépensaient de l'énergie que lorsque c'était nécessaire. Et de nos jours, ce n'est plus du tout le cas. Oui, il y a une finalité qui est pour le plaisir, mais ce n'est pas du tout instinctif. C'est à la fois un plaisir de courir, mais aussi à la fois une souffrance. Et pourquoi c'est une souffrance? Pourquoi ça reste quand même toujours difficile de se mettre en mouvement? Sans doute que le cerveau a été formaté pour être feignant. Dépenser son énergie pour rien, c'était un non-sens. On avait besoin de tout faire pour économiser son énergie. Et donc, on a gardé ça. C'est le fruit de l'évolution que de chercher à s'économiser. Quand on entend des gens se plaindre que oui, les gens prennent les escalators plutôt que les escaliers, mais c'est logique en fait, c'est juste un comportement normal. Sauf que ce qui a été un avantage pendant des centaines de milliers d'années, depuis quelques décennies, l'évolution a été tellement rapide, c'est ce que les scientifiques appellent la disévolution. En quelques décennies, bien sûr, on n'a pas pu s'adapter à ces nouveaux modes de vie, c'est-à-dire qu'on se déplace avec des engins à moteur, donc les transports sont passifs, les loisirs sont de plus en plus passifs, et évidemment, les activités professionnelles sont de plus en plus sédentaires. On était adapté à notre mode de vie ancien, et on ne l'est plus du tout aujourd'hui. Notre évolution a fait qu'on doit être actif, sinon on est en mauvaise santé. L'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, etc. Toutes ces maladies modernes sont liées en partie au moins à un niveau d'activité physique insuffisant. Si on voulait être dans la lignée de ce que faisaient nos ancêtres, eh bien il faudrait quand même être actif 2 heures par jour pour être en parfaite santé. Ce qui fait qu'en réalité, on n'a pas le choix. Notre histoire, notre héritage génétique nous condamne à être actif. D'autres espèces sont beaucoup plus sédentaires que nous. L'humain le plus sédentaire est plus actif qu'un chimpanzé. Les chimpanzés, ils passent leur vie, passez-moi l'expression, à rien foutre. Par contre, il n'y a pas de chimpanzé diabétique. Donc eux, ils peuvent se le permettre. Nous, on ne peut pas. On n'a pas le choix.
Voilà, c'est moins romantique que ce que je me racontais tout à l'heure, mais plus politique aussi. Si on se retrouve chaque week-end à tourner en rond dans les parcs en petite foulée, c'est le symptôme d'un bug évolutif.
Oh, ma cellule de pièce cuisine, je mange, je dors, je bois, je lis.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que le jogging a émergé vers la fin des années 60.
Dans mon bureau,
c'est le moment où on a commencé à bugger, trop à l'étroit dans le nouveau modèle que nous avaient refourgué les Trente Glorieuses.
Avec mon Bonux automatique, pas de problème, dans la machine et hop.
À peu près à cette époque, Olivier Bessy, qui est sociologue du sport à l'université de Pau, était un tout jeune champion d'athlétisme et il a vécu ce moment de bascule.
J'ai commencé à courir quand j'étais au lycée et je m'entraînais souvent quand je revenais dans mon petit village, dans la forêt, et les gens me regardaient, me disaient « mais c'est qui ce fou qui court ?» Ils disaient à mes parents « mais votre fils là, il s'arrête jamais de faire des tours, il a que ça à faire. » Enfin, vous voyez, le bon paysan du coin qui s'éreinte dans son travail quotidien, allait courir pour lui, mais ça dépassait toutes ses représentations. Il se demandait jusqu'où j'allais aller, après quoi je courais. Courir pour courir, trouver un sens à cette activité, y prendre du plaisir, ça allait dépasser. Je passais pour le fou du village.
C'est marrant parce que franchement, quand tu te retrouves le dimanche matin sur ton parcours santé, à la queue-leu-leu derrière tes clones tous en basket fluo, tu as du mal à imaginer que cette pratique complètement intégrée aujourd'hui aux normes sociales ait pu à l'origine être initiée par quelques illuminés anticonformistes. Mais si, Olivier Bessy parle même de révolution. La révolution de la course à pied.
Au début des années 60, la course à pied n'était pas encore quelque chose de complètement intégré dans la société. On l'a pratiqué surtout dans des structures type stade, au sein de clubs gérés par la fédération, où la performance est au service de la compétition. Il faut finir premier, si possible battre un record. Donc voilà, on est dans cette logique-là, dans une société qui emprunte de modernité et où la logique économique de la performance capitaliste se développe. Et le sport, finalement, se développe en cohérence avec cette logique-là. C'est un peu l'image de Mimoun, de Zatopek, le stakhanovisme du coureur, ce monde de la piste, de la contrainte, de la norme, de l'entraînement ascétique.
Il a une montée de 4 mètres, 5 mètres. Le deuxième Mimoun, Zatopek, gagne la course à 5 kilomètres.
Or, il faut attendre donc mai 68, qui est une première rupture, qui ébranle un peu les fondements de cette société moderne, qui critique le capitalisme, qui prône des valeurs de liberté, de plaisir. C'est la Beat Generation, c'est Flower Power, grosse influence américaine. Toutes ces valeurs-là, elles convergent, et c'est tout le système des sports qui s'ébranle. Moi, je me souviens de Woodstock, quand j'étais gamin. Et je ne faisais pas le lien après avec la course à pied, mais ça avait changé ma façon de voir le monde. Alors que j'étais un athlète, un coureur de 800 au niveau national. Et là, je me dis, mais ce milieu-là, il est trop fermé. On parle de renversement du monde athlétique, de métamorphose de la course à pied. Plus en plus de gens qui se mettent à courir pour tout ce que ça pouvait apporter sur le plan de la construction de soi. pour aller partager, communier sur une course à pied qui sort des stades, qui va à la rencontre de monsieur tout le monde, qui devient accessible pour des coureurs tout à fait ordinaires, qui ne sont pas forcément à la recherche de la performance. Il n'y a pas de technique particulière, c'est un style libre. C'est une forme de quête intérieure, de respiration qu'on s'accorde dans un mode de vie qui devient de plus en plus stressant. Une forme d'évasion, d'échappatoire, à la fois au travail, à la ville.
Courir me fait énormément de bien, ça m'oxygène complètement le cerveau et j'en ai besoin comme un médicament. Il y a des personnes qui préfèrent aller voir les psys, moi je préfère courir.
C'est un nouveau rapport à l'espace. On n'est plus obligé d'aller dans un stade pour courir. On va utiliser tous les interstices de l'urbanité. On va aller dans les bois, les squares, les forêts, les chemins de halage. On va courir au bord de la mer, on va courir en montagne, on va courir dans le désert. Donc voilà, donc c'est tout l'éclatement des lieux et puis les temporalités aussi. On peut aller courir le matin de bonne heure, entre midi et deux, c'était même pas envisageable. Avant, il fallait manger, quoi. Après, la nuit, c'est devenu de plus en plus bonne et courante, alors qu'avant, on l'imagine même pas. Donc, on casse les codes.
Moi, j'ai commencé comme ça, en tournant autour de mon pâté de maison, de mon arrondissement. Ensuite, j'ai pris deux arrondissements, etc.
On casse les codes institutionnels, on casse les codes spatiaux, on casse les codes temporels, on casse les codes de la sociabilité. C'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes, c'est pas que les jeunes, c'est aussi les personnes plus âgées. Ça peut être en restant le coureur du dimanche, ça peut être en allant faire des premières grandes courses populaires de communion, de partage, telles que les 20 km de Paris ou Marvejols-Mende ou d'autres. Puis après, on va avoir les grands marathons populaires avec New York 72, puis Paris en 76, Madrid...
One day, you're on your own stage, 26.2 miles, and you're doing it by the power of your own two feet.
Cette nouvelle lame de fond, là, cette idée d'ouvrir les vannes de la course à pied.
J'ignorais, mais alors complètement, ce pan de l'histoire de la course à pied. Et dans un premier temps, ça a plutôt réenchanté mes sessions de running, de m'imaginer dans les pas des pionniers de 68, courir sans entrave, où on veut, quand on veut, comme on veut, pour se sentir libre, briser ses chaînes. Sauf qu'à peu près au même moment, à force d'avoir clavioté tous azimuts sur Internet pour documenter mon épisode, je me suis fait repérer par l'algorithme qui a commencé à m'envoyer de plus en plus de suggestions Instagram dans ce style.
Le running est officiellement rentré dans ma vie. Du coup, je vais vous montrer mes petits achats. Je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est Noël. C'est vraiment ce qui me manquait, les fameuses chaussures de running. Du coup, c'est les Asics Pure Gel. Je sais pas, j'aime trop la couleur. C'est un petit peu un bleu glacial. Je les trouve grave belles. Ensuite, j'ai acheté des chaussettes. Il faut que j'ai toute la tweet, sinon ça marche pas. Elles sont un petit peu chères. J'ai payé ça 100 euros. Est-ce qu'on serait pas sur un craquage ?
Oui, c'est un peu facile de tomber sur le rable des influenceuses running. Évidemment que c'est pas dans les vidéos où elles nous déballent toute leur quincaillerie qu'on a une chance de retrouver la moindre trace de l'élan contestataire à l'origine de la course hors stade.
C'est la montre Garmin Forerunner 965. Genre la montre que tout le monde a, enfin, qui est recommandée. Je vais pas mentir, c'est un coup quand même. Elle était à 975 $ australiens. Au début, dans ma tête, c'était des euros. J'étais en mode, attends, est-ce que je peux m'acheter un iPhone à ce prix-là ? C'est comment ?
Mais ces influenceuses, elles incarnent bien cette bonne vieille tendance du capitalisme à redigérer les contre-cultures pour les remettre illico au service de la société de consommation. Et concernant la course à pied, il n'y a pas eu besoin d'attendre Instagram ou TikTok.
C'est la marque Nike qui l'incarne, avec la marque de Nike, Just Do It. Fais-le par toi-même, cours par toi-même, qui s'oppose aux valeurs d'Adidas, qui était extrêmement sportive. Et Nike, au départ, a fait son business sur la contre-culture, cette intuition marketing phénoménale de jouer sur ce registre-là, de la liberté, ce sentiment d'autonomie du coureur. chacun peut se construire son identité, se sentir grandi à travers la course à pied. Monsieur Tout-le-Monde qui devient un héros, et Nike devient la marque emblématique de ces coureurs ordinaires.
Je suis parti trop vite, j'ai un côté.
Même si cette autonomie, elle est suspendue à une logique consommatoire. Des chaussures, des t-shirts, des collants, le bandeau, le Walkman qu'on va mettre pour aller courir, des shorts de tailles différentes, de matières différentes, des gammes de baskets qui se déclinent à l'infini. Donc, on passe d'un contrôle autoritaire et vertical à des contrôles souterrains plus subtils qui sont exécutés par la société de consommation, qui, quelque part, nous met des règles, des normes, mais de manière, comme l'explique très bien Georges Garello ou Foucault, de manière beaucoup plus souterraine et subtile.
J'ai commencé à courir quand j'étais adolescente, parce que j'étais mal dans ma peau et que ça me semblait être un outil pour perdre du poids.
J'ai rencontré Vicky sur Internet, via le compte Instagram du groupe de coureuses qu'elle a fondé à Rennes, Run Vénère. Et ce qu'elle m'a raconté résonne bien, je trouve, avec ces valeurs d'autonomie et de liberté du coureur qu'Olivier Bessy pointait dans la stratégie marketing de Nike.
C'est une pratique qui me semblait accessible parce que je pouvais courir, je vivais avec mes parents, dans le village de mes parents. Ça ne me demandait pas de matériel, ça ne me demandait pas de faire ça en public, d'être visible. Et donc ça a commencé comme ça. Je pense aussi, j'avais l'impression de cocher un peu un idéal. Moi, quand j'étais jeune, je voulais absolument vivre à Paris ou dans une grande ville. Parce que pour moi, les coureuses, c'était ce qu'on voyait dans les films, les séries, des working girls qui vont courir le matin, avant de revenir chez soi, remettre sa tenue de bureau et d'aller enchaîner sa vie qui va à 100 à l'heure. Et qui paraît aussi un peu difficile, donc il y avait aussi cette fierté-là de pouvoir y arriver. Femme forte, femme occupée, ambitieuse et que rien n'arrête. Et je pense qu'il y avait aussi le fait d'aller vers cet idéal et qui, je sais pas si c'était un objectif, mais ça avait l'air bien. J'avais aussi beaucoup ce rapport à la comparaison avec ce que je voyais sur les réseaux sociaux. YouTube, moi c'est plutôt Instagram que je suis.
Aujourd'hui, je vous emmène courir avec moi pour acheter ma Garmin. En vrai, je suis trop contente parce que j'en pouvais plus de courir avec mon téléphone à la main parce que j'avais trop besoin de regarder mes allures.
C'est vraiment bête, mais rien qu'avoir les petits chiffres, les petites jauges, bah, ça me permet de me motiver quotidiennement.
Je pense que j'avais envie de suivre des personnalités qui me donnaient envie, qui avaient l'air d'avoir un super mode de vie. Et ces personnes-là vont partager soit des fois des conseils, soit à chaque sortie, ils vont mettre le résultat en fait, de combien de kilomètres ils ont fait, en combien de temps, avec des photos d'eux qui souvent sont quand même super bien prises, avec des bons angles, des bonnes lumières. Et donc c'est là que j'ai éprouvé un peu ce sentiment de... Ouais, de jalousie, clairement, et de se dire « Ah bah, cette influenceuse mode, par exemple, s'est mise à courir très récemment, et en fait, elle court beaucoup plus et beaucoup mieux que moi, et elle progresse beaucoup plus vite, et elle est super bien équipée, elle est super jolie dans sa tenue, alors que... »
Salut les gars, on est mercredi, on est 3 jours après le semi, j'ai fait 10 km, c'est mon premier run depuis. Je voulais savoir si vous avez des idées de nouvelles courses, parce que bah, maintenant, j'ai plus d'objectifs, j'ai plus rien.
Et ça, c'est pas un sentiment que j'ai apprécié, parce que... Bah, je me suis rendu compte que je me décevais hyper facilement. Quand j'allais courir le dimanche, je faisais une longue session, c'était jamais assez, ou je voyais tout de suite les choses qui n'allaient pas.
Les applications de running, c'est un vrai phénomène, mais j'étais passée à côté, j'avoue. Au bureau, les trentenaires m'ont traité de vieux débris technophobes quand ils ont découvert que je ne connaissais même pas Strava, qui compte 120 millions d'abonnés dans le monde. La honte. Donc, Strava... Mamie s'est renseignée. C'est une application qu'on télécharge sur son smartphone ou sa montre connectée à 1000 dollars australiens et qui propose des fonctionnalités payantes pour calculer ses statistiques personnelles en termes de kilomètres ou de dénivelé parcouru, de vitesse moyenne, de fréquence cardiaque, de calories dépensées. Bref, plein de données très utiles, j'imagine, pour améliorer ses performances auto-référencées. Mais
je suis sûr qu'il y a un truc que t'as pas capté sur cette application. Que tu sais que c'est le deuxième réseau social avec le taux d'interaction le plus élevé juste après TikTok? Il y a quelque chose que tu t'es peut-être interdit de faire sur toutes les autres applications, mais que tu fais sur Strava. Roulement de tambour, tu crées du contenu.
Mamie a aussi découvert que Strava fonctionne comme un réseau social. Et oui, sur Strava, les coureurs peuvent géolocaliser leur trajet, poster leur performance du jour... agrémenté évidemment d'un selfie où il se la pète en plein effort couvert de sueur. Les followers qui les suivent peuvent liker pour les encourager. Voilà, c'est un réseau social, quoi. Avec ses côtés sympathiques, mais aussi des risques d'effets pervers. Par exemple, il y a une fonction fly-by, survol, qui permet, si j'ai bien compris, de repérer d'autres athlètes à proximité et des segments de route sur lesquels pratiquer. Comme ça, on peut se tirer la bourre en allant courir sur les mêmes segments et comparer après les chronos. On peut gagner comme ça le titre de COM, King ou Queen of the Mountain. Et donc, tout ça, c'est plutôt ludique et motivant, mais vous me voyez venir, on entrevoit assez bien comment la course peut aussi se prendre les pieds dans le tapis de la compétition sociale et de l'individualisme néolibéral, pour aller vite.
On a assisté à une récupération de l'expérience de la course.
Guillaume Leblanc est philosophe, professeur des universités et multimarathonien. Pour conclure cet épisode, je lui ai demandé comment il faisait, lui, pour courir sans se transformer en bon petit soldat du système.
Je pense que c'est la volonté de continuer à pratiquer un sport pauvre, le moins équipé possible. La course à pied n'est pas un sport d'ingénieur, c'est pas un sport d'équipement. Le champion africain Abebe Bikila, quand il remporte les Jeux Olympiques de Rome, je crois que c'est en 1954, on le force à mettre des chaussures, puis finalement il les enlève et il gagne pieds nus. Il y a quelque chose de modeste dans la course à pied. Modestie par rapport aux équipements. Courir, c'est mettre les premières chaussures qui vous tombent dessus, un t-shirt et sortir. Modestie par rapport aux espaces dans lesquels on circule, sans s'en sentir propriétaire, par un droit d'usage, finalement, des sols, des routes, et modestie par rapport à soi. Si cette dimension de la modestie est perdue, alors on rentre dans l'arrogance néolibérale de la course à pied comme affirmation de soi, hyper-individualisme.
En réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que mes sessions de course à pied, il y avait celles qui étaient faites pour répondre à un objectif, que ce soit de performance, donc de distance, de rapidité, de silhouette, de perte de poids ou autre. Et en fait, je ne les vivais pas du tout pareil que quand je sortais courir parce que je ressentais le besoin. Parce que ça me faisait plaisir et que je m'intéresse beaucoup plus au paysage. Je retire beaucoup plus de bénéfices de voir le soleil qui reflète dans les feuilles au moment de l'automne. C'est quand même vachement joli. En plus, dans des coins qui sont vraiment super beaux, le long de canal, etc. Et je pense que je m'en suis rendu compte parce que, justement, j'ai commencé à tomber sur des comptes Instagram de femmes qui font de la course à pied. Des femmes qui préparent des marathons, mais de façon la plus lente possible. Elles défendent le slow running et ça m'avait un peu tiqué à ce moment-là en me disant « Ah oui, en fait, il y a plusieurs pratiques. Faire des pauses pendant une session, ça compte. Enfin, ça fait quand même une session. » Et c'est vrai que moi, j'étais assez sévère sur ça en me disant « Bah, si je m'arrête, c'est fini, c'est foutu. Faire des pauses, c'est aussi comprendre que chacun sa pratique pour chaque personne, puisqu'en fait, personne n'est constitué de la même manière et on n'a pas les mêmes quotidiens et on n'a pas les mêmes forces physiques et la même endurance. » Ça fait du bien aussi de le voir un peu.
C'est un art de l'improductivité, la course à pied. Il suffit de voir quelqu'un courir pour se demander tout de suite, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il court ? Courir pour courir ? Pour célébrer l'improductivité, c'est un moment assez quand même unique. Comment va-t-on faire avec cette chose qui ne sert à rien et qui a l'air importante à tant de personnes. Il y a une forme de sabotage doux au quotidien. L'invisibilité du coureur est quand même une grande jouissance par rapport au contrôle permanent de toutes nos allées et venues. Ce que j'aime dans le fait de courir, c'est que je n'ai plus le téléphone, je n'ai pas de montre connectée, personne ne sait où je suis devenu invisible pendant un certain temps. Courir, c'est fuir aussi, c'est ne pas être à sa place. C'est ce qu'on ressent quand on court dans la ville, on voit bien que la ville n'a pas été faite pour la course. Donc il y a quelque chose qui demeure de l'ordre de la pratique clandestine. Alors maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, dans la gouvernementalité de la ville, on essaie de réintroduire des lieux pour courir, on intègre la course dans la mobilité douce, mais en tant que coureur, il n'y a rien de plus savoureux que de pénétrer un espace qui n'est pas fait pour la course. Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a expliqué que son grand fantasme et son grand trip, entre guillemets, c'était de courir au Père-Lachaise. Parce qu'effectivement, traverser le Père-Lachaise en courant, c'est quelque chose qui ne se fait pas. La course à pied ne se fait pas, et pourtant elle se fait. Ce qui est intéressant comme pratique de liberté, justement.
Voilà, c'est pas mal, je trouve, comme garde-fou, de penser à vérifier, quand on enfile ses baskets et qu'on part courir, si on est bel et bien en train d'essayer d'exercer sa liberté.
À Rennes, on peut courir près du canal Saint-Martin. J'ai essayé un soir d'hiver à, je pense, 18h, mais la nuit est tombée très vite. Je me suis retrouvée en pleine nuit, sans éclairage, et j'ai senti que ça allait pas du tout. J'ai jamais couru aussi vite pour rentrer chez moi. Donc c'est là que j'ai réalisé que j'avais peur de courir toute seule. Je me suis dit, il faudrait que je trouve des gens avec qui courir. Peut-être que je pourrais rejoindre un club. Et là, il y a un autre paramètre qui arrive en compte, c'est que je me suis dit que j'avais pas forcément envie de courir avec des hommes. Courir avec des inconnus un soir en dehors de la ville, bah en fait, j'ai plus confiance à le faire avec des femmes qu'avec des hommes. À ce moment-là, je me suis dit que peut-être je pourrais rejoindre un club de course à pied en non-mixité, et en fait j'ai découvert qu'il n'y en avait pas. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de lancer le mien. On court tout ensemble, s'il y en a une qui veut s'arrêter, on s'arrête toutes, pour exister dans l'espace public et apprendre à y vivre et à ne plus s'y cacher pour pas se faire agresser, parce que clairement c'est ce qu'on nous apprend dans l'espace public. Quand on court la semaine, on croise des groupes d'hommes qui prennent toute la place sur le chemin, et on a beau longer la Vilaine, donc qui traverse Rennes, ils ne se poussent pas. C'est à nous de nous recroqueviller sur le côté pour éviter de tomber dans l'eau. C'est l'application Strava qui a sorti une étude qui montrait, eux, par les personnes qui sont inscrites sur leur application, qu'il y a beaucoup moins de femmes qui pratiquent, et il y a beaucoup moins de femmes qui pratiquent quand il fait nuit, et il y a beaucoup moins de femmes qui pratiquent au lever du soleil. Pour des raisons d'espace public, de sécurité, et aussi d'enfants, d'emploi du temps, de charge mentale. Le dimanche matin, on croise beaucoup plus de femmes qui nous regardent avec un petit sourire entendeur qui est assez motivant. Mais en même temps, quand on court le soir en hiver, on découvre aussi un autre monde auquel j'aurais pas eu accès si j'avais pas rejoint un club de course à pied ou créé Run Vénère. C'est-à-dire que on se fait découvrir des endroits. Il y a des endroits de Rennes où j'avais jamais été, alors que ça fait 8 ans que j'habite ici. Et je me dis que des personnes qui découvrent la course à pied, ça peut-être aussi leur produire cet effet-là, qui est très galvanisant, je trouve.
Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.